day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bang Geek Mafia. Bang Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Alors attention, une émission spéciale ce soir, une émission cinéma. Alors on a avec nous Monsieur Cinéma, Antonio, salut.
Salut.
Non mais je peux t'appeler The Chroniqueur Cinéma aussi.
Oui, si oui, c'est mieux.
Ou le boss, ou le parrain.
Cinéma.
Cinéman.
Pour Cinéman, bah, oui, c'était pas un bon film.
Non, c'est pas terrible.
À moi.
Olivier, salut.
Salut à tous.
Alors tu vas nous faire un super quiz aussi sur les musiques de films.
Ouais. J'ai essayé de me caler sur le thème de ce soir.
Ouais.
Et sans mettre la 7ème compagnie.
Non, ah bon
même,
oh, dommage.
Ni même Bourville et Fantomas à l'honneur.
Et Romain.
Et ben moi rien, comme d'hab.
Qui est venu, c'est un peu notre mascotte, Romain. Il est venu nous dire bonjour, il est venu participer au quiz d'Olivier.
Exactement.
Tu nous avais parlé de cinéma espagnol en début de
saison. Oui, c'est vrai. Ouais. Avec des films que tu connais peut-être.
Des films tristes.
Ouais, non, mais qui sont magnifiques.
Non, j'ai aimé, ça m'a donné envie de regarder, j'ai essayé.
Ah ouais
oui, oui.
Bah, je t'ai prêté.
Oui, mais je les ai pas. Oui,
ah bah écoute.
Surtout que t'as essayé le terme que
Camino.
J'ai
Ah, magnifique. Très triste. Camino, mais très
bon,
très
bon. Oui, j'ai regardé sur. Parce que je les connaissais pas du tout, je l'ai regardé sur internet. Je les connais toujours pas d'ailleurs.
Alors, lequel j'ai vu, moi, c'est pas Camino.
Princesas.
Princesas.
Ouais. Ouais, c'est ça, princesse, ouais.
Et du coup, bah, si tu les veux, j'ai pas de problème.
Écoute, parfait.
Non, mais si ça t'a donné envie, c'est déjà bon signe. En fait.
C'est vrai.
Déjà un bon point.
Eh bien, on commence cette émission comme d'habitude avec un peu de musique. On va démarrer avec un petit morceau de musique de film. Alors, bien sûr, vous allez tout de suite reconnaître. Je donne pas la référence, hein. Vous allez chercher pendant le morceau. On commence le quiz déjà.
On commence le quiz.
Et donc, vous êtes bien sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point. Bien sûr, vous avez tous reconnu
Fantomas.
Merci Olivier, Fantomas de Michel Magne.
Tu marques un point.
Oui, tu marques un point, c'est bien, pas mal. Antonio, juste avant que tu nous parles de cinéma, un petit générique fabriqué avec tes petites mains.
Ben oui, il y a un ordinateur.
C'est pratique.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles.
Antonio, à toi.
Oui, alors vous avez reconnu sans doute Eric von Stroheim à la fin dans Sunset Boulevard.
Action.
Oui, Sébastien, Romain, Olivier, aujourd'hui je voulais parler, parce que vous n'êtes pas sans savoir que 2015 est l'année du centenaire d'Orson Welles, de la naissance d'Orson Welles, et ça m'a fait penser à Citizen Kane, dont je vais vous parler après, et surtout aux listes de films que des revues ou des critiques font de temps en temps sur les meilleurs films de toute l'histoire du cinéma. Donc on va faire un petit topo, un état des lieux aujourd'hui des listes des meilleurs films de tous les temps, mais pas n'importe lesquels. J'en ai sélectionné 3.
Ah oui, 3.
3, pas 20, parce qu'il y en a 20. Il y a les listes des pires films de l'histoire du cinéma comme des meilleurs.
Oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de choses.
Et les pires films, on en a vu. Hein.
Ça, on en parlait.
Et c'est difficile de sélectionner 3 films, chapeau, hein, parce que c'est...
Trois listes.
Ah, trois listes. Ah oui, je me suis dit,
trois listes de 180 films.
Ah, de 250 films.
De toute façon, l'émission dure 3 heures.
On va passer en revue.
C'est une émission à plusieurs volets.
Non, rassurez-vous, je vais me cantonner aux 3 premiers. Mais c'est assez éclairant, justement, de parler de ces listes. Donc, je vais vous les révéler juste après. Et qui en disent long sur, d'un côté, les critiques de cinéma, d'un autre côté, sur les professionnels de la profession, comme disait Godard, et qui ne sont pas critiques, et enfin sur le public lui-même. C'est ce type de liste que j'ai choisi. Donc, les critiques, la liste des critiques, celle des professionnels et celle du public. En fait, les unes ayant finalement plus d'importance ou d'écho que les autres. Mais on va voir ça. Alors, c'est vrai que chacun, en tout cas les plus cinéphiles d'entre nous, a eu un jour ou l'autre cette envie de classement, qui pour certains est devenue une manie, et je suis sûr... Romain, Olivier, Sébastien, que vous avez chacun votre liste.
Oui, Paris, Texas.
Un début de
Paris,
liste.
Paris, Texas, c'est mon film préféré.
Voilà. Olivier.
Toi, c'est la 7ème compagnie, Olivier.
Bah, oui, Au clair de lune.
Non. Plutôt, moi, j'aime bien les Tontons Flingueurs.
Ah ouais.
Ah oui.
Non, je suis incapable de t'en donner un. Il y en a trop que j'aime, c'est impossible. C'est ouais, impossible.
Tu fais pas de classement.
Non, j'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a des films qui m'ont marqué, en effet, mais en donner un, je sais pas. Je trouve que c'est des moments de vie, donc c'est difficile d'en dégager un par rapport aux autres.
Et 10 alors.
Voilà, c'est bien le problème. C'est bien le problème.
Alors, c'est vrai que pendant longtemps, c'était Citizen Kane, qui était en tête de toutes les listes.
Justement, c'est ça qui m'a fait penser, puisque c'est l'année du centenaire, mais on va voir que le Citizen Kane a du souci à se faire. Enfin, du moins dans les listes. Donc, effectivement, c'est pêle-mêle qu'on se fait son top 10, hein, sauf Romain. Top 100, voire top 1000.
Ah oui,
parce
aussi.
Que ça existe des top 1000.
C'est plus facile finalement.
Oui, mais ça, c'est pour les plus courageux. Et c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez les livres 1000 lieux avant de avoir avant de mourir, 1000 ouais. Musiques. Bah, c'est un peu ça. Et il existe un ouvrage qui s'appelle 1000 films à voir avant de mourir. Donc je vais commencer par le premier. Non, je déconne. Donc. Se faire cette liste, c'est aussi un exercice, et comme l'écrivait l'excellent critique Jean-Michel Frodon du Monde, un exercice qui sollicite autant l'image qu'on entend donner de soi qu'une idée du cinéma.
Oui.
Se composer en douce un autoportrait à travers ses films favoris, et c'est ça qui est amusant. Donc ça, c'est ce que disait Frodon, ce qui est tout à fait vrai. Alors ça, c'est l'analyse pour les listes personnelles qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout sur Internet, hein, comme vous le voyez de temps en temps, et surtout dans des sites assez connus comme Sens Critique, je ne sais pas si vous connaissez Sens Critique, qui fait beaucoup de listes et des top 10, des top 20, des top 100. Et il y a même un site qui s'appelle topito.com.
Absolument, oui.
Hein, vous connaissez?
Oui, bien sûr.
Ouais, qui fait des listes de n'importe quoi.
De tout et n'importe quoi, effectivement.
C'est incroyable. Ouais. Donc moi, j'en ai relevé deux qui sont marrantes. Les 10 meilleurs films sans Tom Cruise. Excellent.
C'est vrai que c'est bien.
Ouais, je l'ai pas. Faudrait que je l'ai pas noté. J'ai pas noté ces films-là. Ou il y avait aussi une liste dans Sens Critique qui était pas mal. C'était les films préférés de mes voisins de métro. Donc le gars, tous les matins, il s'était promis d'interroger son voisin de métro pour lui demander quel était son meilleur film.
Ouais, pourquoi pas.
Il arrivait à 9 et au 10e, il est mort, poignardé.
Donc, alors, ça c'est pour le phénomène, disons, sociologique, mais dans le cercle de la cinéphilie mondiale, il y a des listes qui émanent soit d'une revue consacrée, soit d'un groupe identifié, et que j'ai divisé, donc, comme je vous le disais au départ, en 3. Donc, la première liste, celle des critiques et historiens, la deuxième, celle des pros, et la troisième, celle du public. Alors, ces listes ont évidemment des effets, hein, puisque les listes, c'est amusant, on en parle, c'est drôle, mais en même temps, il y a des listes qui servent de support à des rétrospectives, à des décisions culturelles, à de la sauvegarde du patrimoine, à des réhabilitations de cinéastes, ou même à des nouveaux de la restauration de films. Et d'où, donc, d'où leur importance finalement. Même si c'est du, c'est ludique, ça, ça a aussi des effets. Sens. Ah oui, ça a des effets culturels. Alors, on va commencer par la liste qui fait autorité. La liste de la première catégorie, celle
des historiens,
des historiens, des critiques. Depuis, alors c'est la liste qui fait autorité depuis le milieu du siècle dernier. Hein, c'est la liste de la revue Sight and Sound. Une revue anglaise qui est publiée par le British Film Institute et qui appartient donc à cette première catégorie des historiens et des critiques. Alors les votes de cette revue, qui est l'une des plus anciennes, hein, comme je vous le disais, se font tous les 10 ans. La dernière, le dernier vote a eu lieu en 2012 et le prochain donc en
presque en 2022.
Voilà. Et donc avant celle de 2012, donc c'est là où on va en venir avec Citizen Kane, le film consacré meilleur film de tous les temps hein, depuis 50 ans et celui-là, je vais vous faire écouter le son qui va vous faire penser à ce film. Donc Rosebud, c'est la scène d'ouverture de Citizen Kane d'Orson Welles, qui a donc été consacré depuis 50 ans, meilleur film de tous les temps, voilà, par Sight and Sound. Donc ça, en 2012, donc en 2012, Citizen Kane perd sa première place.
Oh là là.
Incroyable.
Et au profit de qui ?
Et au profit de quel film ? Et vous allez voir quel film est aujourd'hui, selon Sight and Sound, le meilleur film de tous les, le meilleur film de tous les temps de l'histoire du cinéma.
Ah oui, j'ai reconnu la musique. Non, ce n'est pas le Grand Bleu, Olivier. C'est Vertigo d'Alfred Hitchcock.
Ouais, c'est Vertigo, donc en français, sueur froide.
Qui est désormais maillot jaune du classement.
Maillot jaune, oui. Ouais. Vertigo.
Vertigo de Sight and Sound, par Sight and Sound en 2012. Hein. Donc, Citizen Kane descend d'une place, hein, il perd pas non plus.
Ah oui, il est deuxième.
Ah, il est deuxième.
Non, mais ça va.
Évidemment.
Ouais. Ça va.
Il reste à l'affût, sait-on jamais, un revirement.
Moi j'ai une question, parce que ce sont quand même deux films qui sont bien avant 2012. Comment se fait-il que deux films qui sont bien avant 2012 puissent d'un seul coup changer de classement, puisque normalement, ceux qui l'avaient classé numéro 1...
Moi je pense qu'il y a des critiques qui sont morts.
Oui, c'est sûr.
Font toujours autorité, normalement.
Mais j'ai pas, il faudrait poser la question à Sight and Sound, mais effectivement, il y a des explications comme celle du décès.
10 ans, c'est long pour.
Qu'il est mais joyeux. Je pense que les historiens qui les ont remplacés sont peut-être plus jeunes ou ont d'autres préférences.
Et
mais...
puis, et puis Alfred Hitchcock aussi, qui n'était pas forcément un cinéaste très respecté autrefois, est devenu une espèce de mythe incroyable.
C'est vrai que maintenant, il prend de plus en plus d'importance par rapport à ce qu'il avait pu, enfin l'impression qu'il avait.
C'est
qu'il
sûr.
Ou des pots de vin un peu pour relancer les ventes de certains films.
Ouais, il n'a plus besoin.
Hitchcock. Théorie du complot pour tout, hein, tout à fait. Tu sais.
Alors, donc, c'est donc, comme je vous le disais, donc, il chute d'une place. Enfin, c'est pas vraiment une chute, mais il est toujours dans le top 10. Alors, effectivement, il faut bien comprendre hein, que Citizen Kane trust, ça c'est en jeu de mots, puisque Citizen Kane parle d'un magnat de la presse.
Joli.
Et donc,
moi j'ai pensé antisocial, mais ça n'a rien à voir.
Alors depuis au moins les années 50, hein, les premières apparitions de Citizen Kane au top, c'est depuis au moins 58, enfin la fin des années 50, puisque le film date de 41, comme je vous le rappelle. Et donc c'était une constante. Alors on va pas faire la critique ou le statut révolutionnaire de Citizen Kane, ça serait un peu...
Non,
non.
C'est
non.
Pas le lieu, ou alors une prochaine fois.
Une spéciale.
Une spéciale Citizen Kane.
Enfin bon, pour ceux qui l'ont pas vu, mais j'ose croire que tout le monde l'a vu, l'importance du film de Welles est quand même considérable, et c'est sans doute le film qui a suscité le plus grand nombre de vocations de cinéaste. Un film, c'est un film total, j'en dis deux mots, un film total qui, s'il a été fait quand même dans le cadre des grands studios, c'est-à-dire la RKO, reste pour toujours, à mon sens aussi, la matrice d'une nouvelle vision du monde et du cinéma. Pour Hitchcock, qu'on entend toujours en fond, c'est une autre affaire. Vertigo est sans doute le film le plus mélancolique de Hitchcock. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette opinion. C'est quand même un film qui est...
Un peu obsessionnel aussi. Hein.
Obsessionnel, un peu morbide, mais un film qui a été réalisé à la suite de deux ou trois chefs-d'œuvre. Hein. C'était au moment où Hitchcock réalisait La mort aux trousses, Psycho, tout ça, cette période fin des années 50 qui a été une période d'une immense créativité pour Hitchcock. Donc c'est quand même une... J'avais noté que c'était une profonde réflexion sur l'identité et sa multiplicité, pour ne pas dire sa duplicité, puisque c'est une histoire de double.
Exact.
Donc avec ces deux films, pour moi, on peut aller sur une île déserte. Et le troisième, dans cette liste de Sight and Sound, bon, j'ai pas de son, on retrouve Le Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu, film moins connu qu'Hitchcock ou Wells, qui est un film aussi sublime. Alors ça, c'est pour Sight and Sound. Sur le site, vous pourrez consulter le reste du classement. Il y a beaucoup de choses. Après, il y a La Règle du Jeu, L'Aurore, 2001, La Prisonnière du Désert. Enfin, des films qui sont effectivement... qu'on retrouve souvent dans les listes.
Est-ce que on fait une pause musicale ou est-ce que tu veux continuer sur les listes?
On passera à la deuxième après, la deuxième catégorie, celle des professionnels, qui est un peu plus drôle.
Ok, alors ça marche. Alors... On va écouter là encore une musique de film. Je vous laisse deviner. Allez, c'est parti.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la mer, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
L'oiseau frivole de nos destins.
Quand même une si petite ligne de chance. Quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien. À peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Je suis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
Un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne
de hanche,
ma ligne
de chance.
C'est l'oiseau vol de nos destins.
Voilà, c'était bien sûr la musique de Pierrot le Fou, Antoine Duhamel, un film de Jean-Luc Godard. Et c'était bien ça. C'est Anna Karina, tu disais, qui chante. Hein,
oui, c'est Anna Karina, la femme de Godard à l'époque.
Shock Radio FM.
T'es encore en train de faire ça? C'est pas possible.
Non, c'est bon, j'aurais dû terminer, j'étais juste en train de réécouter.
T'es content de toi?
Pas terriblement.
Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con?
J'ai du travail de recherche, pourquoi tu dis comme un con? J'ai l'air con.
Ben, je sais pas, réponds-moi. Est-ce que tu penses que Stanley Kubrick préparait ses chefs-d'œuvre comme ça, en écoutant des cris en pyjama?
Mais je m'en branle de Kubrick. Hein, chacun ses méthodes. Si j'ai envie de bosser en pyjama.
Oh, mais te braque pas, je sais pas, moi j'essaie juste de comprendre, je trouve juste un peu ridicule, c'est tout.
Ok. Ben, merci pour ton support. Vraiment.
Oh, mais j'y connais rien au cinéma, moi.
Hé, hey. Kubrick mes couilles.
Alors, Antonio, pourquoi ce choix? Romain, as-tu reconnu ce film?
Non.
C'est un film de Quentin Dupieux.
Ouais, ouais, non, mais quand tu vas me le dire, ça va me...
Réalité.
Oui, de nom, forcément, mais
réalité. Cela dit, ouais. Il est sorti en début d'année, là.
Alors, pourquoi ce choix, Antonio, comme ça, une envie de blaguer?
Désacraliser le cinéma et Kubrick, par conséquent.
Tu n'aimes pas Kubrick, comment ça?
Si, si, si.
Moi, j'adore ce réalisateur. Kubrick.
Non, mais le film de Dupieux, là, cette année, qui, avec Chabat, est vraiment hilarant.
Ouais.
Et cette réplique, là, de Chabat, est aussi hilarante. Ouais. Elle me fait toujours
Kubrick
rire.
Mes couilles.
Parce qu'il n'y a que des Français qui peuvent dire Kubrick mes couilles. Et donc Kubrick my balls.
En anglais. Et en espagnol
mi, a ver, depende, los mis huevos. Voilà. On va dire.
Alors, sur ces bonnes paroles.
C'est ça, classe.
Il est temps de passer à la deuxième liste, hein, la liste sympathique des. Ah, Olivier, tu veux dire un mot?
Non, non, je m'y mets.
Ah, tu m'y mets le 2. Ah, c'est 2 ça. Ouais.
C'est 2, c'est pas d'accord. Le signe de la victoire, mais.
Presque.
Oui, deuxième liste. La deuxième liste, c'est celle d'une revue américaine qui s'appelle The Hollywood Reporter. C'est un hebdomadaire américain et qui a publié en 2014 sa liste en faisant voter les professionnels américains, mm-hmm. les plus influents. Et évidemment, il y a très peu de films étrangers.
Oui, on imagine qu'il n'y a pas de films français.
Si, il y en a. Il y a Amélie Poulain,
oui.
Quelque part
oui.
dans le classement, je ne sais plus à quelle place. En tout cas, Citizen Kane n'est même pas deuxième, mais il est
troisième.
Troisième.
Ouais,
il est quand même sur le podium.
Il est placé, quand même sur le podium. Et alors le premier, je vais passer par le deuxième avant. Le deuxième, c'est un film de 1939 avec Judy Garland.
Ah oui.
Quiz.
Si le magicien d'Oz.
Bravo, magicien d'Oz. Et alors le premier, c'est un film de 72. D'un très grand réalisateur qui fait de moins en moins de films, mais qui en fait encore.
Ah
oui. Italo-américain.
Racine Ball ?
Non, non, non.
Non, c'est pas Scorsese.
Non, c'est Coppola, c'est Le Parrain.
Ah, le premier.
Le premier.
Ah, oui.
Le premier. Donc, Hollywood Reporter, c'est ce trio-là.
Le Parrain, c'est cool, ça. Ouais.
Alors, bon, Le Parrain, c'est quand même. Le Parrain, c'est quand même.
C'est
le...
Marlon Brando, quoi.
C'est Marlon Brando. Ouais. Qui est quand même qui a montré dans ce film qu'il était le plus grand acteur de sa génération, enfin à mon avis. Et en plus on a vu après dans Le Parrain 2 qu'il y avait Pacino.
Moi j'aime bien Le Parrain 2 hein, ouais. Parce qu'il y a De Niro, Pacino,
ouais,
j'aime bien.
Et il y a De Niro, ouais. C'est un peu le passage de témoin entre l'ancienne génération, celle des années 50 avec Brando, 50-60, et celle des années 70 et du nouvel Hollywood. Alors, après, il y a la troisième catégorie, donc la liste du public, et j'ai pris celle qui a de plus en plus d'influence aujourd'hui aussi pour un peu tout le monde, c'est celle du site internet, Internet Movie Database. Bravo. Mario Puzo.
J'ai quelque chose à te dire.
Et donc IMDB, eux, c'est pas du tout cet esprit un peu cinéphile. C'est une liste avec beaucoup plus de films récents, forcément, puisque là, la liste IMDB, c'est une liste où c'est les utilisateurs enregistrés du site qui votent. Donc c'est un top 250.
Mais moi j'y vais souvent sur ce site, hein. J'aime bien site Internet Movie tout. Database. On trouve
surtout
tout,
pour les séries.
Oui, les séries.
Les séries américaines à regarder.
Alors.
Donc pour IMDB, alors. D'après vous
Star Wars.
Non. Si, il y est aussi.
Il y est, bah ouais.
Mais il est dans le top 3
Non, non, il n'est pas dans le top 3.
D'accord.
Dans des films plus récents, oh là là, il y en a plein.
Ouais. Attends, je ne retrouve plus d'ailleurs.
C'est le Titanic, je quitte tout de suite le
sujet. Ah, non, je pense pas.
Je vais tout de suite aller sur le site. Non, j'ai pas d'idée à part.
Attends, je vais vous le retrouver.
Moi, mon film préféré, c'est de Paris, Texas, mais ça ne va pas être dedans.
Ah, moi, il y en a 250.
Bah oui,
alors, j'ai pas la liste là sous les yeux des 250. En tout cas, le premier est un film inattendu, alors que j'ai même pas vu.
Ah ouais.
Un film qui s'appelle Les Évadés.
Ah oui.
De Franck Darabont, ouais. De 94, avec Morgan Freeman et ouais. Tim Robbins. Je connais pas.
Bien. Si, très bon film, mais je l'aurais pas mis en premier.
J'aurais pas mis en premier non plus, mais.
Et les premiers.
Ah ouais. C'est étonnant, premiers. Ça, quand même.
Mmh. Ouais. C'est incroyable.
C'est un bon film, mais de là le mettre en premier. Ah oui, Les Évadés. Et en deux.
Ah bah t'as la liste maintenant sous les yeux, toi.
Il triche, c'est scandaleux.
Et vous savez qui est en deux?
Non, bah tu veux nous le dire.
Bah ça y est, je l'ai trouvé.
Le parrain.
Ah bon ouais. Ah oui, bah ok. Alors Les Évadés devant, c'est ça qui
ouais,
est c'est
bizarre. Étonnant.
Premier Les Évadés.
Ouais, d'un côté, Les ouais. Évadés devant Le Parrain, c'est plutôt assez drôle d'ailleurs.
Alors voilà, c'est que à la troisième place,
Le Parrain 2.
Le Parrain 2.
Ah oui, d'accord.
Et à la deuxième place, Le Parrain 1. Vous suivez? Donc 3, c'est le 2 et 2, c'est le 1.
C'est logique.
C'est logique. Alors bon, Les Évadés, alors vous pouvez en dire un mot, vous l'avez vu? Moi j'ai même pas vu.
Oui, alors c'est l'histoire de gars qui s'évadent.
Ah, oui, voilà. Non mais.
Ouais, d'accord.
Alors, c'est
en fait deux prisonniers.
Ouais, Tim Robbins en fait, est un détenu en col blanc, ouais. Qui est utilisé par le patron du centre pénitentiaire pour blanchir son argent parce qu'il utilise la main d'œuvre et il fait il impose à tous les incarcérés de travailler, de récupérer de l'argent et c'est la mise en place de sa fuite en essayant de se débrouiller pour prendre en même temps l'argent du patron de mais c'est un bon film mais c'est
captivant.
Pas... Ah, c'est surtout surprenant. Alors, oui, au début,
la fin est étonnante. Aussi.
La fin est étonnante.
Attends, c'est pas là où il s'échappe par en fait par un conduit. À la fin, il sort par.
Alors maintenant, pour non. Tous ceux qui veulent regarder le film, ça va être plus compliqué.
Oui, pardon. Oui, c'est
sûr. Il y a aussi d'autres films où à la fin il meurt, mais personne.
Non, mais là,
si vous
on ne raconte pas la fin.
Il ne meurt pas et on le retrouve sur une plage à la fin ou quelque chose comme ça. Voilà, il sous une barque, il y a un mot ou un truc.
La planète des singes.
Non, mais c'est ça, hein, si je ne m'abuse.
Alors, on va pas le dire.
Je vais pas le dire ouais. Parce que des gens veulent le regarder. Mais c'est un film, c'est un bon film à regarder un soir.
Ouais, mais voilà, sans plus quoi.
Sans plus. Mais effectivement, de là, le mettre.
C'est le public. C'est le public qui vote. Et donc, je sais pas quelle est la proportion d'Américains, de Français.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est ça.
Ou d'évadés qui ont voté.
Ou d'évadés ou de prisonniers qui adorent ce film.
Une personne qui a voté 50 000 fois.
C'est ça. Un fan.
Alors, je sais pas quelle est la condition de vote.
Je ne sais pas.
Mais alors, il m'étonne ce classement. Est-ce que tu as les films qui suivent un tout petit
oui,
peu
oui,
tout
oui.
Près,
alors il y a des films toi qui es branché sur t'as le site là
oui il y a The Dark Knight après
The Dark Knight oui il y a beaucoup de Nolan
ouais il y a 12 hommes en colère c'est étonnant.
Oui parce qu'il est assez souvent présent même dans les catégories et des listes des historiens
la liste de Schindler
ouais.
Oui, oui. Oui. Pulp Fiction
alors moi il y a un film américain que j'avais adoré. J'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. C'était avec Sean Penn. C'était La Dernière Marche. Sean Penn et Susan Sarandon. Et c'était
la
peine de mort. Ouais, ouais. Et c'est le seul film américain où effectivement le but c'était pas de prouver que la personne était
coupable.
Oui ou non. C'était plus sur est-ce que oui ou non, même si quelqu'un est coupable, est-ce qu'on a le droit de le tuer ou pas. Et le film était vraiment très très
film
bien.
Film engagé.
Très rare au niveau des Américains d'avoir un film de ce type-là. Yeah.
D'ailleurs, c'est de Tim Robbins, je crois.
Mm.
Oui.
Ouais, ouais. Donc oui, dans cette liste, effectivement, il y a beaucoup de films beaucoup plus actuels que ces des deux précédentes. Il y a même Les Sept Samouraïs en 18e.
Il y a ça aussi.
Il y a Matrix.
Ouais.
Il y a plein de films récents, disons.
Ça rappelle des souvenirs quand même.
Donc, si on fait la moyenne, c'est quand même Citizen Kane. Hein.
Ah oui, Citizen Kane est présent. D'ailleurs, je voulais en parler aussi un petit peu. Il y a en France la grande revue Les Cahiers du Cinéma qui ont quand même, eux aussi, ils ont fait en 2007 un classement en faisant voter des critiques et des historiens, comme pour Sight and Sound, 78 très exactement. En 2007, et donc c'était les 100 films, les 100 meilleurs films, et non pas 250, 10, 20. Et donc, premier, Citizen, Kane. Deuxième, La Nuit du Chasseur.
Ah oui, pas mal.
Pour les Français, pas mal, de Charles Laughton. Et en trois, La Règle du Jeu de Jean Renoir. Mm-hmm. Donc, des films toujours. Bon, La Règle du Jeu, c'est avant-guerre, mais sinon, c'est vraiment les années 50, les années 40.
On trouve Léon hein, dans la liste de l'Internet IMDb, Movie Database.
Ah, on trouve de tout. Hein.
Non, mais il y a des films français aussi. Quand même.
Ah oui, quand même.
Donc, quand et il y a et La vie est belle.
Ah oui, d'accord.
Pour Romain.
Ouais.
Quand même,
Oui, un souvenir.
Et il y a les deux.
Il en faut.
Les deux films La vie est belle. Le film de 46 et le film de 97.
Ouais, je préfère celui de 46.
J'étais
voilà
pas,
pour les listes.
Pas
merci. Moi non plus.
Non, en tout cas, c'était surprenant, effectivement. Et ça...
On fait une petite pause musicale. Alors, je vous propose toujours une musique de film. Alors, c'est un film récent, pas très célèbre, mais moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est Virgin Suicide de Sofia Coppola.
R,
tout de suite. Ah, la bande Geek Mafia sur Radio G. Voilà, c'était Virgin Suicide, la fin, la BO plutôt du film Virgin Suicide dans Bang Geek Mafia. Creature Shock Radio FM. Olivier, un petit jingle pour toi. Il faut chanter, hein.
Dans ton panier, du fromage, quand tu dons dans ton panier, du fromage de chez Morel.
Alors, qu'as-tu dans ton panier ce soir ?
Ben moi, j'avais un quiz, mais surtout, c'est pourquoi j'ai pas le même jiggle que le monsieur qui est très intelligent, là.
Parce qu'Antonio, il l'a fait lui-même.
C'est ça.
Puis je sais que t'aimes bien Charlie Oleg. Ouais.
Et en avant.
Allez, je peux te remettre, si tu veux.
Formidable.
Hey. Alors, c'est quoi ce quiz, Olivier ?
Alors, donc j'étais au courant de... Je me suis invité quand même...
Tu as bien fait.
Hier. Et donc, Sébastien, Olivier, gentiment... Romain, c'était aujourd'hui, je crois bien.
Ouais, je crois, je suis passé, je dis donc, hey, il s'allumait chez vous, je veux
dire. Et donc, Sébastien m'a dit, attention, c'est une spéciale cinéma, clairement, ça va être un peu surprenant pour toi. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un petit quiz sur le cinéma, et j'ai essayé au maximum d'aller sur un registre qui n'est pas forcément le mien. C'est un quiz à partir de morceaux de musique classique qu'on retrouve dans des films.
Ah ouais,
musique classique.
Alors, au début, je suis parti dans les films, puis après, j'ai un peu débordé. On est sur des choses qui sont peut-être des fois passées à la télévision. Et puis, à la fin, c'est pas forcément classique, mais ça ressemble à du classique.
Mais c'est de la musique dans un film.
Et ça finit déjà à bien. La fin avec du n'importe quoi, puisque de toute manière, c'est mon genre.
Donc on va jouer dans le studio, mais vous pouvez jouer chez vous aussi, hein. Évidemment, essayer de retrouver donc dans quel film on entend cette musique classique, c'est ça ?
Alors j'ai commencé très simple.
Ouais.
Et puis au fur et à mesure, il va falloir trouver.
D'accord.
Ah bah ça on a trouvé nous déjà tout de suite.
Alors Strauss.
2001.
2001.
De Kubrick tout court.
Bah, ouais. De Stanley. Est-ce que je laisse jusqu'au bout ?
Je crois que j'ai dû couper au bout de 10 secondes. J'essaie de me ou 15 secondes.
Ah oui, d'accord.
Ça s'enchaîne.
Alors, donc c'était
on est le deuxième
Strauss,
aussi, je crois.
En attendant Zarathoustra.
En attendant
Zarathoustra,
oui.
Ainsi parlait.
Ainsi parlait,
Zarathoustra. Mais, alors, mais c'est le...
C'est la version
c'est la, non, c'est la partie.
Ah,
en attendant Zarathoustra.
Ah oui, d'accord. Oula.
Oula.
On y va. Alors bon, un point.
Un point.
Pour Antonio.
Pour Antonio, oui.
Et pour toi.
Et pour moi, alors. Tout le monde a gagné. Romain avec nous.
Oui, non, mais...
Deuxième film. Ah, je sais, je sais.
Apocalypse Now.
Ouais.
Gagné Apocalypse Now. Wagner, La Chevauchée des Valkyries.
Francis Ford Coppola.
J'ai pas,
c'est
mis,
léger.
J'ai pas mis les bruits des moteurs et des
ah oui,
des hélicos.
J'ai coupé.
L'attaque du village.
C'est vrai que Wagner, c'est léger, hein. C'est, ouais. C'est frais.
Ça passe toujours bien. Hein.
Troisième titre.
Troisième titre.
Alors, allons-y.
Ah oui, Orange Mécanique.
Gagné. Beethoven, la 9e symphonie.
Enfin, c'est Kubrick.
Ouais, c'est Kubrick, ouais. Et Kubrick...
Tout court.
Ouais.
Alors voilà, donc encore un point pour Antonio, c'est trop ouais. Facile pour toi.
Alors là, ça va être très simple pour ceux qui connaissent un
c'est
peu.
C'est vrai.
Heindel, ouais.
Barry Lyndon.
Barry Lyndon.
Gagné,
Kubrick, toujours.
Voilà. Mais en fait, il n'y a que des films de Kubrick.
Non, un moment ou un autre, je change un peu.
Romain, t'es avec nous ?
Salut, ça va ? Alors, prochain morceau. Et ben moi, j'étais surpris que c'était Verdi.
Hein ? Ah oui ?
C'est Verdi.
Verdi. Alors annonce. Oui, alors c'est par contre
c'est Verdi moderne, c'est Verdi,
adapté par Jean-Claude Petit. Mmh. C'est Jean de Florette, Manon des Sources.
De oui, Claude Berry. Jean de Florette, oui.
En fait, c'est Verdi joué à l'harmonica.
D'accord. J'avais la version avec aussi un banjo, mais je l'ai pas pris.
Mais ça c'est dans Délivrance.
Et c'est pas Verdi. Est-ce que tu pourrais allumer mon micro par contre, parce que depuis tout à l'heure je sais.
Alors le site, on va quitter le cinéma. Maintenant, faut trouver où est-ce qu'on a entendu ça à la télé.
À la télé. Donc c'est une série télé, tu veux dire?
Ou une émission.
On l'a entendu à la télé.
D'accord.
Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais.
Il était une fois l'homme, oui, effectivement.
C'est la toccata de Bach.
Ouais, de Bach.
Ça a marqué animé. Notre jeunesse.
Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle avoir passé des.
Comment il s'appelait le monsieur qui est habillé en cheveux?
C'est comme dans La Famille Adams, tu
ouais,
sais.
C'est ouais, c'est ça, cheveux. C'est un peu.
Il est habillé en cheveux.
Mais oui.
Cheveux,
c'était son.
Ses maestro.
Maestro, c'est ça.
Ouais.
Ça m'est revenu.
Il y avait le microbe qui ressemblait. C'est le microbe qui ressemblait étrangement à.
Un microbe?
Oui.
Je me souviens pas.
Bah, ouais. Le générique au début, il est
mythique. Oui, c'est l'évolution, tu sais, le générique. L'évolution de l'âme.
Alors là.
Tu voulais dire un truc?
Miss France?
Non, alors ça pourrait être Miss France.
Non, ça c'est un mariage.
Ah
ça,
non,
c'est,
ça, c'est Rocky.
Ah oui, c'est vrai.
J'espérais qu'il. Rocky.
Ah ouais.
C'est les grosses têtes?
Bill Conti. C'est génial.
Ah oui, c'est sur RTL, ça, non?
Et évidemment, la dernière, c'est une spéciale dédicace pour mon fils.
Ah.
Ouais, Star Wars, ouais. John Williams.
C'est la marche de l'Empire.
La marche de l'Empereur.
Non, la marche de l'Empereur, c'est un film avec des pingouins. Ça, c'est la marche de l'Empire.
De l'Empire.
Ah oui, t'as raison.
Mais c'est bien.
Mais il y a au niveau couleur,
oui,
il y a un truc.
Dark Vador comme... marche comme un pingouin à un moment.
Et puis même au niveau de la couleur, il y a ça. Hein, tu sais,
c'est vrai, c'est blanc et noir.
Oui, tout à fait.
Alors, Olivier, merci pour ce
mais,
quiz. Il est
tout le monde
sympa.
A gagné, en fait. C'est ouais. C'est un
moi
peu
surtout,
l'école
moi,
des fans. Sauf.
J'avais les deux derniers, mais bon, c'est tout.
Non, mais on peut en rajouter quelques-uns. T'as trouvé ouais. Matrix tout à l'heure, attention.
Ouais. On va dire ça comme ça.
Si, c'est vrai.
Ouais.
On écoute un petit morceau de musique. Alors, c'est pas un générique de film, c'est un générique de série télé. Une série qui est pas très connue, mais que j'aime beaucoup aussi. Moi, vous voyez, je me fais plaisir en même temps. C'est Oz, une série carcérale. Voilà. Si on parlait des évadés tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Dans Band Geek Mafia. Et voilà, c'était la musique de Oz dans Band Geek Mafia. C'est bon ça?
Ah. Donc tu aimes la violence, les films avec des hommes dans les prisons.
En vert.
Parle-nous-en.
En bleu, en rouge, en jaune. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, pose-toi bien là.
Jean-Marguel.
Ah, ton cul,
formidable.
Cul. C'est mon génie.
Voilà, merci Antonio. C'est toi qui m'avais passé ce magnifique extrait des Galettes de Pont-Aven. Hein.
Tout le monde va connaître.
Galettes de Pont-Aven, film avec Jean-Pierre Marielle. Ouais. Film culte.
Ah oui. Ouais. Ouais, faut dire le mot en entier.
Culte. Quelle voix. Alors, toujours pour rester dans des plans cultes, on va parler
d'une projection.
French Connection.
Qui aura lieu demain soir dans un cinéma du centre-ville d'Angers, bien connu.
Voilà, cinéma des quatre sont coups, on peut le dire. Oui, hein. French Connection, demain soir à 20h15, un film de William Friedkin.
D'ailleurs, à propos de cinéma, on peut dire qu'aujourd'hui, grand événement a ouvert un troisième cinéma.
Ah oui, à Angers, enfin au Pont-de-Cé. Ouais.
Au Pont-de-Cé.
Un cinéville.
Ah oui, j'avais entendu.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, bah oui, on manquait un peu de cinéma.
Voilà.
Et donc, French Connection de William Friedkin présenté.
Oui, demain soir au 400 coups par Jean-Baptiste Auray, qui est un grand critique spécialiste de cette période-là du Nouvel Hollywood. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu, puisque French Connection, c'est au tout début de cette période-là, 71.
Alors, qu'est-ce que c'est que le Nouvel Hollywood, Anthony?
Alors, qu'est-ce que c'est? Ça se mange pas.
C'est quoi donc?
Le Nouvel Hollywood, c'est une période. Alors,
fraîcheur de vivre.
Hollywood.
Alors, il y en a qui l'appellent la Renaissance américaine, mais le Nouvel Hollywood, c'est resté, et surtout grâce à un ouvrage que vous trouverez dans la collection Point Seuil, d'un journaliste américain qui s'appelle Peter Biskind, et qui a fait un pavé, assez passionnant à lire d'ailleurs, qui s'intitule Le Nouvel Hollywood, et qui raconte justement Hollywood à partir de 66-67. Et qui voit émerger de nouveaux talents et qui se... Et là, en nouvelle, c'est par rapport à vieux, vieil Hollywood. Hein. Donc, ce qui veut dire que s'il y a un nouvel Hollywood, il y a eu un vieux Hollywood, ben oui. Ou un vieil Hollywood plutôt. Et donc, c'est cette période-là où le cinéma américain s'est laissé influencer, ou se laisse influencer, mais pour sa survie un peu, par les nouvelles vagues européennes. Donc le cinéma américain à partir de ce moment-là, surtout, alors Peter Biskind, donc le journaliste dont je vous parlais là, fait démarrer ce nouvel Hollywood avec le film Bonnie and Clyde, mais de Arthur Penn en 67. Mais on pourrait quand même, Torrey d'ailleurs pourrait le dit à certains égards là-dessus, comme toutes les périodes, il y a pas de film, il y a pas de départ fixe, il y a pas quelque chose.
Il y a plusieurs dates. Ouais,
voilà, il y a plusieurs dates. Donc, puisque Arthur Penn avait fait des films auparavant.
Il y a des grands réalisateurs. Hein.
Voilà, et c'est à partir de 67, donc il y a eu Arthur Penn, mais qui avait commencé déjà dans les années 50, avec Bonnie and Clyde, et après il y a eu tous les cinéastes qu'on a connus dans cette période-là, des années 70, mais qui continuent à tourner, dont George
Scorsese.
Lucas, Scorsese, Coppola, alors il y en a Henry Bambel, hein, qui ont émergé, Biskind le classe dans le Nouvel Hollywood, mais Kubrick, moi, à mon avis, c'est pas le Nouvel Hollywood.
Oui, il est un peu à part.
Il est complètement à part. Mais il y a Dennis Hopper, Mike Nichols avec Mrs. Robinson,
oui,
le lauréat.
Bien sûr. Avec Dustin Hoffman.
Voilà, il y a Woody Allen. C'est vrai qu'Woody Allen a commencé à cette période-là, mais est-ce qu'on peut dire qu'Woody Allen, c'est le Nouvel Hollywood?
On ne sait pas. On demandera à Jean-Baptiste Auray.
On demandera demain soir. Donc il y a French Connection de Friedkin, qui est quand même un grand film policier qui a initié des séquences assez...
Course-poursuite.
Des course-poursuite, oui. Mais justement, je suis très, 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 très content d'aller le revoir.
Oui, le voir au cinéma, ouais. Ouais, ça va être génial. Et d'ailleurs, Friedkin, pour les auditeurs, c'est quand même le réalisateur de L'Exorciste.
Voilà, juste après, ouais. L'Exorciste, qui a été un tube, un hit mondial.
On citera pas la phrase culte
de L'Exorciste. Non.
Il y a des enfants qui écoutent.
Voilà.
Donc c'est ça, le Nouvel Hollywood, c'est
le renouveau du cinéma américain des années 70.
Des années 70, à partir évidemment de l'influence des nouvelles vagues des cinémas de l'Est, de la nouvelle vague française et du free cinéma.
Michael Cimino.
Et Cimino, évidemment, mais il y en a plein. Il y a Al Ashby, Robert Altman. Richard Lester.
Ah oui, d'accord. Il y a une quantité astronomique.
Ouais, John Boorman pour les Anglais, Nicolas Roeg, même Miloš Forman.
Ah ouais.
Donc tout ça, tous ces cinéastes-là émergent et comme c'est une sorte de rupture avec le cinéma des studios qu'on pourrait donc appeler le vieil Hollywood, c'est-à-dire
le
cinéma du
classique.
Star System.
Ouais.
Voilà. Donc à partir de là, même si
l'âge d'or
du Star System, après dans les années 50 avec la concurrence de la télé, l'influence européenne, tout ça part en morceaux, et c'est tant mieux parce que le cinéma de toute façon doit épouser la société, les soubresauts du monde. Voilà.
Et c'est vrai que ces réalisateurs et ces films aujourd'hui sont des réalisateurs et des films cultes, mais c'est à l'époque, j'ai entendu ça récemment là, c'est Taxi Driver qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 76, avait été descendu par la critique, les gens trouvaient ça minable, alors qu'aujourd'hui c'est un film culte.
Il faut du recul
pour apprécier la nouveauté.
Voilà.
On va rester dans le nouvel Hollywood et on va rester dans les courses-poursuites, puisqu'on va écouter tout de suite la musique de Bullitt dans Mad Geek Mafia. Lalo Schifrin.
La force.
Voilà, c'était la musique de Bullitt, musique de Lalo Schifrin, dans Bande Geek Mafia, dans cette émission spéciale cinéma. Alors, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Sauf que j'ai oublié, pour Romain, qui est là avec nous, son petit jingle préféré.
Ah, oui, c'est vrai.
Qu'il a fait lui-même à la flûte.
Oui.
Quel talent.
Des années de pratique, en fait.
Et on veut supprimer le pipeau à l'école.
C'est bien
c'est
dommage.
Catastrophe.
C'est la flûte à bec, c'est très réussi. Bravo Romain.
C'est de la flûte à bec, c'est pas du pipeau.
Bon bah c'est pareil.
Il y a, il y a la version top avec la flûte de Pan, alors là.
Ouais, mais là, c'est. Non, mais on ne l'a pas.
On en a pas mal en stock.
Les gars, on a parlé tout à l'heure de nos films préférés. Donc, si on peut faire le tour de table, moi, c'est Paris, Texas. Romain, c'est Fight Club, on va dire.
Oui, oui, alors c'est celui que j'ai le plus vu, oui. Et qui m'a le plus marqué, en tout cas. C'était vraiment, je pense qu'il y a des. On parlait de moments tout à l'heure dans une vie. Et quand tu te construis, quand t'es ado, moi, c'était une révélation pour moi à ce moment-là, ce film-là.
Tiré d'un roman de Chuck Palahniuk, hein, que je vous conseille. Antonio, ton film préféré, alors, ce serait quoi?
Moi, je me suis fait un top 10. Mon film préféré, c'est Orson Welles, mais c'est pas Kane.
Ah bon?
C'est La Soif du Mal. Ouais.
Ah oui?
Ouais,
ah oui, avec ce plan séquence incroyable au début.
Plan séquence extraordinaire à la frontière mexicaine avec Charlton Heston qui accompagne Janet Leigh. Et au même moment, il y a une explosion.
Là, on peut expliquer aux auditeurs un plan séquence, car il y a toute une scène qui dure peut-être 10-15 minutes sans coupure. Sans coupure.
C'est une action,
sans montage.
Une action en durée réelle.
Ouais. Et Olivier, ton film favori, ce serait
Alors, en général, moi, il y a certains films. Mais
il nage bien le chef.
Il nage bien le chef dans la 7ème compagnie. On n'est pas dans le principe. Non, un film qui m'avait pas mal marqué, mais c'était Le Salaire de la Peur.
Ah oui,
ah oui.
Pas mal.
Clouseau,
ouais,
un grand réalisateur.
J'avais trouvé. Ouais, à l'époque, j'étais pas très très cinéphile. J'étais pas un film en noir et blanc. J'avais un peu de mal au début.
Ah
et,
bon
et en fait, dans ce film-là, on oublie la couleur, on en oublie l'époque. Et moi, je suis vraiment resté dedans du début jusqu'à la fin avec vraiment.
Un suspense, il y avait un suspense.
Ouais. Ouais.
Une tension entre les personnages, entre Vanel, le vieux, et Yves Montand. Ouais, c'est très bien.
Alors pour faire plaisir, excuse-moi Antoine.
Oui, je voulais juste rajouter qu'on parlait de Friedkin tout à l'heure avec French Connection demain, et Friedkin a fait un remake, c'est-à-dire une nouvelle version du Salaire de la Peur, qui s'appelle Le Convoi de la Peur, qui est ressorti cette année.
C'est vrai, un film très rare.
Oui, qui est un peu réévalué, puisqu'il a eu, tenez-vous bien, ça a été un bide en 77, parce qu'il est sorti en même temps que
Star Wars.
Que Star Wars. Donc on faisait la
queue. Le même jour.
C'est vraiment vrai. C'est
pas de chance.
Ouais, niveau timing, c'était pas le bon plan.
Pas de bol.
Non, mais c'est dommage, parce que le film, je l'ai revu cette année, puisqu'il a été remasterisé cette année. Et c'est un film, bon, qui a un remake du Salaire de la Peur, mais qui relie le roman, qui est un roman français, qui reprend. Non pas le film de Clouseau, mais qui reprend le roman, ce qui est
il repart à la base.
Voilà, c'est un film complètement hallucinant, hein. Vraiment, il y a une séquence de deux camions qui traversent un pont suspendu extraordinaire. Ça vaut Apocalypse Now et les hélicoptères.
Waouh. Ah oui. Alors pour faire plaisir à tout le monde, hein, à Romain, à Florence aussi qui nous écoute, et Olivier, on va écouter les Pixies, Where Is My Mind. C'est la musique du film Fight Club.
Stop. Yeah.
Voilà, c'était les Pixies. Where is my mind sur Radio G. Et voilà, cette émission est déjà terminée. Ça passe très vite.
Trop vite.
Merci les gars, merci Romain.
Je t'en prie.
Merci à toi.
Merci Antonio. Merci Olivier.
Merci.
Vous revenez quand vous voulez, bien sûr.
Si la lumière est allumée.
Surtout toi. Et on va se quitter avec la musique de Vertigo, hein, de Bernard Herrmann, dont on parlait tout à l'heure, hein, un des meilleurs films de toute l'histoire du cinéma. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut.
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 Au revoir.
FM.